it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues.
Eh bien, bonjour à tous et nous voilà réunis à nouveau pour une émission de rentrée concernant l'émission des rivières et des hommes, l'émission consacrée à la pêche et au gué, en Chartreuse en particulier, avec comme invité aujourd'hui Jean Thibault, président de la PPMA des pêcheurs du Haut-Guié. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et Fabien Caterina, guide de pêche et membre actif de la PPMA des pêcheurs du Haut-Guié. Bonjour Fabien.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors, on a un sujet, on a un ordre du jour assez costaud aujourd'hui, avec nombre de sujets à traiter. Et pour commencer, ce que tout le monde aura remarqué malheureusement cet été, la sécheresse. Alors, comment est-ce qu'on définit d'ailleurs la sécheresse par rapport au milieu aquatique ?
La sécheresse par rapport au milieu aquatique. Alors, il y a deux types de milieux aquatiques. On a les eaux superficielles, donc les rivières, les ruisseaux. Et puis les eaux souterraines, donc dans lesquelles on va pomper l'eau potable notamment, ou puiser pour divers usages. Quand on passe à un niveau de seuil qui devient limite ou critique, on établit, enfin un comité et la préfecture établissent des alertes, des arrêtés, qui vont définir un niveau, un état de vigilance ou d'alerte, ou d'alerte renforcée ou de crise, suivant l'état critique de cette sécheresse, et puis s'applique ensuite de l'information, de l'incitation à moins consommer, ou des restrictions plus ou moins draconiennes, suivant l'état de sécheresse.
Alors, est-ce qu'on a idée d'ailleurs des températures qui ont été relevées cet été, et quels sont les impacts sur la flore et la faune, qu'on imagine pas géniaux?
Alors bon, nous on est plus alerté par la température de l'eau, mais on a passé des épisodes de canicule qui ont forcément un impact sur la flore, qui ont un impact aussi du coup sur la faune. Sur la flore, ça a été un petit peu moins ressenti, bien que je pense que les forêts en pâtissent aussi. C'est plutôt qu'on a eu des coups d'eau réguliers qui ont permis en fait à la végétation de bien pomper et de garantir encore une végétation relativement verte et dense.
Heureusement qu'on est en Chartreuse, en zone humide.
Ouais, c'était pas le cas l'an dernier. Hein, non, nous c'était notre crainte en fait. Hein, ça a été que on était sur le fil en fait, hein, tout l'été. S'il n'y avait pas eu ces coups d'eau, par chance d'avoir quelques orages qui sont quand même brefs
et intenses, mais pas
assez importants. Finalement, fonctionne mieux pour la végétation que pour les cours d'eau, puisque la végétation pompant l'eau qui tombe, elle bénéficie mieux justement à ce milieu-là qu'aux rivières. Donc les rivières ont pris quand même un petit peu de niveau, ça a permis de garantir une certaine température, donc on est passé un petit peu à côté de la catastrophe, sauf pour certains affluents qui quand même étaient en état assez critique, hein, comme le Morge de Miribel, comme l'était le Saint-Franc, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, le Chenava aussi, qui sont en aval des échelles au niveau de Miribel aussi. C'est vrai que pour nos affluents, c'est quand même critique d'année en année, hein, avec des assecs parfois, voilà. Donc ça fait 3 années en fait qu'on est en sécheresse, on est sur des bassins avec des rivières qui sont régies par les neiges et les pluies, et malheureusement on a peu de neige et plus de pluie en automne, donc automne-hiver, ce qui fait que les nappes donc souterraines et donc les rivières en été à la période estivale souffrent, puisque les niveaux sont plus assez rechargés. Donc 3 années, on est censé normalement... voir des dégâts qui sont de plus en plus importants. Heureusement, cette année, on n'a pas eu, par exemple, puisque ça touche pas que la faune, la flore et les rivières et les poissons, on n'a pas eu de villages qui ont, enfin en tout cas en Chartreuse, je crois pas à ma connaissance, de villages qui ont été ravitaillés en camion-citerne. Mais ce qui était le cas l'an dernier, ce qui était le cas sur les communes qu'on connaît, hein, donc Saint-Franc, Saint-Jean-de-Coux, Saint-Julien-de-Rat, je crois. Et puis même un peu plus loin, des communes comme Saint-Étienne de Saint-Jouard ou à côté, voilà, des petites communes, dans les Bauges aussi. Bref, bon, on est passé à côté de la catastrophe, mais on craint l'automne à venir, on espère qu'il y ait de l'eau, beaucoup, pour recharger les nappes, et on craint l'été prochain.
Alors, il y a le niveau d'eau, bien évidemment, mais il y a la température aussi qui doit jouer pour les poissons. Il faut peut-être pas une température... Enfin, il y a une limite de température, j'imagine.
Ouais, tout à fait. Les deux sont très liés, d'ailleurs, hein, sur des rivières qui subissent aussi le réchauffement climatique, mais qui ont un niveau relativement constant toute l'année d'eau, subissent moins l'évaporation et des débits trop bas. Et donc, un réchauffement trop important, ce qui n'est pas le cas sur le gué, sur certains secteurs. Donc oui, à partir de 19 degrés, on sait que la truite cesse de s'alimenter, par exemple. Donc elle connaît un stress hydrique, ce qui n'est pas bon pour sa croissance, ce qui n'est pas bon pour la progéniture. Et puis après, on atteint des seuils létaux donc de mort à partir de 23-25 degrés. Ce qui est par exemple le cas, certains étés, là, depuis 3 ans, on arrive à 22 degrés quand même au niveau de Miribel-les-Échelles, et on arrive à presque 27 degrés sur le Guié en bas à Saint-Genis-sur-Guié. Donc voilà, là.
Pour des rivières de montagne, ça craint.
Ça craint un peu, ouais. Donc on est sur. Mais là, on ressent directement, en tout cas sur les populations de salmonidés qui ont besoin de ces températures fraîches, puisqu'on vient de le voir qu'à 19 degrés, c'était déjà limite. On le ressent puisque les populations sont deviennent anecdotiques ou complètement déstabilisées.
Alors Jean, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises par les APPMA et les fédérations en cas de sécheresse et en particulier sur l'Isère
Là oui, en principe c'est la fédération qui nous envoie des messages là-dessus. On a des arrêtés. Qu'on suit, pour faire tout le travail dans cet amont-là, quoi. Mais bon, bien souvent, ça nous concerne tous, c'est sûr. Mais c'est pas l'objectif vraiment atteint, quoi, d'un moment comme on devrait faire, quoi. Un arrêté, c'est un arrêté. On devrait plus pomper, on devrait plus rien faire. Mais bon, il y a toujours des gens qui pompent un petit peu, qui oublient un petit peu des trucs, quoi.
Alors justement, vous me tendez la perche là pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque cet été, en baladant mon chien au bord du Guié, je suis tombée sur une personne qui était en train de pomper l'eau du Guié dans une citerne en plastique, vraisemblablement au moins de 500 litres. Est-ce que les gens ont le droit ? Dans quel cas ils ont le droit ? Dans quel cas ils n'ont pas le droit ? Et en tant que citoyen, quand on voit quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on est supposé faire ?
Alors d'après ce que je sais, moi, normalement, on n'a pas le droit de pomper de l'eau quand il y en a arrêté comme ça. Maintenant, bon, il y a des agriculteurs qui ont des autorisations suivant, mais ça, il faut demander à la DDT, donc c'est sûr, on ne peut pas demander à tout le monde, est-ce que vous avez le droit ou...
Bien sûr, puis on n'a pas l'autorité nécessaire pour le faire.
On n'a pas l'autorité pour faire ça non plus, quoi, voilà.
Oui. Ouais, tout le secteur quand ça touche au secteur économique, on peut avoir des droits d'eau, comme une pisciculture, comme un centre de pêche, donc on a un droit d'eau qui nous autorise un certain volume prélevable.
Et le droit d'eau, il est à proximité de la propriété.
Non, alors le droit d'eau, c'est dans les textes réglementaires. C'est un propriétaire qui a un droit d'eau, donc c'est-à-dire un droit de détourner l'eau de la rivière pour l'arrosage, pour l'alimentation de bassins.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est souvent des droits qui datent de Mathusalem, mais bon, qui sont toujours en vigueur. Et donc, pour ces gens-là, ils ont les autorisations. Pour d'autres, comme les agriculteurs, c'est pareil, avec certaines restrictions de 15-30% suivant les états de sécheresse. Pour les propriétaires qui sont riverains à la rivière, il me semble qu'il doit y a un certain volume qui est autorisé à être prélevé. Pour les autres, c'est normalement interdit. Et si vous avez affaire à ce type d'agissement, même sans connaissance de la réglementation, c'est bien d'interpeller ou l'association de pêche ou la fédération de pêche ou directement les gendarmes.
En relevant le numéro de plaque
par
éventuellement
exemple.
De la voiture.
Le mieux, ça serait quand même d'aller voir cette personne et de discuter et de voir comment. Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être que. Voilà.
D'accord.
Ça reste toujours mieux d'informer, je pense, avant de dénoncer, mais bon.
D'accord. On fera mieux la prochaine fois alors.
Voilà.
Dans l'actualité toujours, la remise en fonction ou la remise en eau de la retenue de fourvoirie. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça fait partie d'une des actualités, en fait, sur le Guémor, sur le domaine Congère. Ça fait un peu plus d'un an là, que donc, le barrage qui se trouve accolé au tunnel de Fourvoirie, donc le barrage de Fourvoirie, n'est plus en eau. Pour la simple et bonne raison que sur des travaux de réfection de la centrale, en fait d'une nouvelle centrale hydroélectrique un peu en contrebas qui produit l'électricité, lors de ces travaux, il y a eu un problème sur la nouvelle conduite forcée qui emmène l'eau à la centrale hydroélectrique. Donc elle a été en suspens pendant un peu plus d'un an. L'eau dans la rivière s'est écoulée naturellement. On n'a pas prélevé les 90% du débit moyen qu'on est autorisé à prélever quand on est gestionnaire d'un barrage hydraulique. Donc elle a fonctionné naturellement pendant un an. Sauf qu'en fonctionnant naturellement, elle a fait transiter des sédiments, de la matière minérale, qui se sont stockés derrière le barrage, puisque c'est le but d'un barrage, hein, de stocker et de l'eau, mais le problème, c'est qu'il y a de la matière solide aussi. Donc,
oui, surtout chez nous.
Surtout chez nous, avec la forte pente.
Voilà.
Donc, cette année de stockage de sédiments a fait que, bon, ils sont en train de remettre en fonction l'ancienne turbine, du coup, puisque visiblement, la nouvelle n'est toujours pas
opérationnel.
Donc ils ont remis en eau le barrage. Pour remettre en eau, il faut qu'il n'y ait pas trop de matière solide à l'intérieur. Donc de tout ce qui est stocké en amont du barrage, l'idée c'était de le reverser, parce qu'on doit restituer les matériaux dans la rivière. C'est important pour la vie, pour la faune aquatique, pour les truites, pour le cycle biologie. Donc le problème, c'est que cette fois, il y avait un volume assez important, conséquent. On a pu constater et déplorer qu'en fait, le trou à l'aval du barrage, donc du coup, après curage du barrage, a été complètement comblé. On parle d'un volume, enfin d'une surface qui est quand même assez importante, avec peut-être 20 mètres de long, 10 mètres de large, 3 mètres de profondeur, et un bon paquet de truites qui étaient bloqués par l'infranchissable, le barrage en question, puisque la passe à poisson ne fonctionne pas. Quand elle fonctionne, elle est très peu efficace ou pas du tout. Donc on savait qu'il y avait beaucoup de poissons là-dessous, et potentiellement un certain nombre a dû pouvoir s'échapper, et le reste est probablement enfoui sous les sédiments. Donc bon, l'Agence française de biodiversité est informée. Je pense qu'elle est en discussion actuellement, ou elle l'a été en tout cas, avec le gérant du barrage. Donc on va espérer qu'à l'avenir, les manœuvres, ces types de manœuvres soient un petit peu plus surveillées, mieux pensées, et voilà, parce qu'il y a moyen de minimiser, je pense, les impacts. Là, c'est quand même déplorable, bon, voilà.
Peut mieux faire,
oui, parce que bon, malgré les autorisations qu'il a pour faire ce travail, mais bon, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait aussi, quoi, c'est pas tout le temps non plus...
Oui, c'est bien de le rappeler. C'est vrai qu'il a fait ça dans un cadre légal. Il suit des conseils. Ouais, on lui donne des autorisations et un type de manœuvre qui suit. Bon, là, c'est dommage de ne pas avoir été avant.
Peut-être un manque de vision globale sur l'impact par rapport à la rivière.
Disons qu'eux n'ont pas de vision de la rivière, donc ils se soucient peut-être même pas ou ne savent pas quels peuvent être les impacts. Après,
Voilà, donc on rappelle aux entrepreneurs qui se trouvent en bord de rivière, et notamment celle du Guier, que toutes leurs actions ont un impact sur la faune et la flore, et que la PPMA est là pour conseiller et préconiser peut-être la meilleure façon de faire selon les actions à mener. Et si c'est pas la PPMA, ça peut être la fédération, ou ça peut être l'AFB, en l'occurrence,
la police de l'eau, quoi.
Voilà, qui peut intervenir et conseiller sur le sujet.
Oui, alors bon, dans ce cas-là, ils sont au courant, puisqu'ils sont quand même assez régulièrement en discussion avec.
D'accord. Alors, troisième sujet d'actualité en cette rentrée 2019, le label Rivière Sauvage, qui a été obtenu fin juillet 2019. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est le label Rivière Sauvage ? Jean ? Non. Fabien ? Jean ?
Ouais. Le label Rivière Sauvage, c'est un label qui va être décerné à une rivière qui correspond à des critères de... je déteste ce mot, je vais trouver autre chose. qui va répondre à des critères de fonctionnement naturel du cours d'eau. Donc c'est surtout la géologie, la physico-chimie, la biodiversité.
Le non-réempoissonnement, qui est quand même une spécificité de la PPMA locale.
Voilà, la gestion, la gestion de la pêche et de la rivière. Donc bon, le Guémor répondait à la plupart de ces critères, la grande majorité de ces critères, et pour... comment dire ça, valoriser ces actions et l'état de préservation du milieu, on décerne quand les rivières sont solvables, un label, donc une étiquette qui va définir un tronçon de rivière ou une rivière complète comme étant une rivière sauvage dont l'écoulement est proche de l'écoulement naturel. Donc le Guémor a été labellisé rivière sauvage et on en est bien heureux parce qu'à la base de tout ça, c'était quand même des projets de micro-centrales hydroélectriques qui étaient en nombre sur le secteur qui aujourd'hui est labellisé. Donc on est très content de ça.
On peut redéfinir ce secteur qui part donc de la sortie du pont du Grand Logis, c'est ça ?
Alors, non.
C'est moi qui me trompe.
Le secteur, non, il concerne le Guémor, disons autrement dit, de sa source jusqu'à Fourvoirie.
Donc le barrage dont on vient de parler.
Voilà. Mais le secteur qui a été labellisé, qui est passé rivière sauvage, donc c'est du pont du Grand Logis.
Non, on va y arriver. Allez, on recommence.
Non, le secteur labellisé, il se situe donc depuis les sources du Guémor jusqu'au barrage de Fourvoirie. C'est d'ailleurs... Pourquoi c'est la limite aval ? C'est parce qu'on ne peut pas concevoir une rivière sauvage avec un infranchissable de 10 mètres d'eau du type Fourvoirie. Donc non, le tronçon labellisé, c'est bien de Fourvoirie jusqu'aux sources. Non, c'est un peu plus tard qu'on parlera du Grand Logis.
D'accord. Cette labellisation, pour commencer, c'est quand même quelque chose d'assez rare en France. Il y a très très peu de rivières qui bénéficient de ce label, donc on peut être fier déjà de ça.
Oui, ça concerne 1% des rivières en France, donc on peut être fier de ça, on peut être fier de l'état de préservation, puisque c'est aussi les acteurs locaux et les citoyens qui ont permis
qui
aujourd'hui
ont porté ce projet
d'avoir une rivière restée préservée, donc ça c'est chouette. Et puis tout ce qui s'ensuit en fait, c'est pas que d'avoir contré les projets de micro-centrales, c'est aussi de voir qu'on se fédère autour des acteurs locaux, les associations, que les mairies nous suivent, qu'on est capable de leur proposer des alternatives et des solutions à ça, dont le label Rivière Sauvage, et donc travailler un petit peu plus sur le tourisme, sur l'état de conservation, sur la biodiversité, sur des choses qui ne rapporte pas de l'argent direct dans le porte-monnaie, mais qui participe à une valorisation et du territoire, et des milieux naturels, et des acteurs de ce territoire. Donc c'est chouette. C'était une belle journée, le 27 juillet. Donc, et puis ce qui est à venir est encore plus sympa, puisque on va avoir les suivis participatifs, il y a un cahier des charges, la rivière n'est pas... éligible au label toute sa vie, elle l'est pour 5 ans, il y a encore des choses à faire.
Elle a encore des choses
donc
à prouver.
Ça, c'est chouette.
Alors, il y a du suivi de la faune, on va développer un petit peu. Il y a toute une partie qui va être en no-kill pendant 3 ans, c'est ça ?
Là, oui, on va... Alors oui, dans le cadre du cahier des charges, dans le cadre de la labellisation Rivière Sauvage, il y a un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, la fédération s'est portée maître d'œuvre sur l'arasement de 2 derniers points noirs un petit peu sur le secteur qui était labellisable, qui sont des seuils, c'est des barrages qui ne sont pas équipés mais qui sont quand même un barrage, un mur dans la rivière.
Pour
infranchissable pour les poissons et pour les sédiments, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ces deux seuils, c'est les seuils que connaissent bien les habitants du coin, le seuil de l'ancienne fruitière, dite de la laiterie, comprise entre l'Adia et Saint-Pierre-de-Chartreuse, et le seuil des Antonins, à la sortie de Saint-Pierre-de-Chartreuse en direction de Perquelin, le long de la route. Là. Donc ces deux seuils sont en train d'être arasés. Alors le seuil de la fruitière, c'était un arasement sur 2 ans, donc un arasement partiel cette année en 2019, la fin des travaux en 2020. Pour le seuil des Antonins, c'est censé être terminé cette année avant la fermeture de la pêche, puisque les travaux ne sont pas autorisés au-delà de la fermeture, sauf dérogation. Il y a eu juste un petit souci sur le seuil des Antonins, avec quelques difficultés, puisque c'était un point solide. Donc je ne sais pas si ça sera fini cette année ou repris l'an prochain, mais voilà, en tout cas, c'est lancé, c'est fait partiellement ou pratiquement, voilà. Et voilà, donc pour l'arasement de ces seuils, en fait, pour revenir à ta question, pardon, on n'intervient pas dans la rivière sans préserver les truites qui sont présentes. Donc on a fait des pêches de sauvetage, c'est-à-dire qu'on va prélever avec des anodes et de l'électricité par nage forcé les poissons qui sont présents pour les sortir du milieu avant de les écraser ou de les détruire. Et on a profité de ces pêches sous demande de la fédération pour faire des suivis génétiques. Donc on a prélevé des bouts de nageoires pour faire un suivi génétique des poissons et connaître la qualité de leur génétique, savoir si on est sur des poissons proches des souches autochtones. On a fait des marquages RFID, c'est un marquage radio avec transpondeur pour suivre les déplacements de ces poissons à la suite de l'arasement des seuils pour voir à quel point ils sont capables de remonter, de descendre la rivière. On a fait aussi des marquages sur les sédiments, donc sur la roche, hein, sur la matière solide, pour voir aussi à quel point elles peuvent être retenues et à quel point, voilà, jusqu'où elles iront transiter sur les 3 années. Donc on a 3 années de mise en parcours prendre et relâcher, que les pêcheurs aiment bien appeler no-kill, pour éviter que les pêcheurs mangent des truites avec des transpondeurs dans le ventre, pour surtout avoir une qualité de suivi qui est la plus... claire et la plus sérieuse possible. Donc on aura un suivi à la fois du transit des poissons et du transit des sédiments. Voilà.
Eh bien, c'est complet.
Donc à partir de 2020, 3 années de no-kill, depuis le pont du Grand Logis, qui se trouve à la sortie amont des gorges du Guémor, donc au niveau du Grand Logis, jusqu'aux quasiment les sources du Guémor, donc au-dessus de Perquelin.
D'accord. Ce qu'on appelle les chutes de Perquelin.
Oui, voilà.
D'accord. Très bien. On va se faire une petite pause musicale pour reprendre notre souffle.
Médical, ça va, Sophie?
Bien, et on repart sur une actualité maintenant qui se situe très exactement à Saint-Joseph-de-Rivière, avec deux points particuliers. Là, je me tourne vers Jean. Le pont du maire d'Arrée et l'APPMA de Saint-Joseph-de-Rivière. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur tout ça, Jean ?
Alors, ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que l'APPMA de Saint-Joseph-de-Rivière n'existe plus.
Paix à son âme.
Ils ont une gestion, disons autrement dit, parce qu'ils ont deux étangs qui appartiennent à la commune. Donc, ils gèrent pour l'instant simplement ces deux étangs, mais ils n'ont plus d'APPMA pour gérer les autres, la rivière elle-même à côté, quoi. Alors, donc, normalement, moi, j'attends qu'ils me donnent les baux pour que je puisse passer après, disons autrement dit, avec ça, quoi. Parce que, du moment qu'il n'y a plus d'APPMA, la fédération redonne les baux de pêche à la PPMA la plus proche, donc, c'est-à-dire Saint-Laurent-du-Pont. Donc les rivières, les petits ruisseaux, c'est les rétangs. Vous avez, tout ce qui descend de...
Le Chauroland.
Le Chauroland.
Ouais. Le maire d'Arrée.
Le maire d'Arrée.
Donc le Chauroland, ça descend de Saint-Jean, de l'Aventure, là.
Voilà, tout à fait, oui.
Après, le maire d'Arrée.
Le maire d'Arrée, lui, vient du col de la Placette,
ouais.
Avec les cascades de la Pisserotte,
voilà.
Si je ne me trompe pas. Voilà, et puis donc tout ça, ça rejoindrait tout notre domaine de pêche, le canal de l'Hérétan, tout ça, quoi.
C'est censé revenir à la PPMA la plus proche. Les baux, donc le droit d'exercer l'activité pêche,
voilà,
devrait nous revenir.
Voilà. Alors après, ensuite là-dessus, ils m'ont convoqué, ils m'ont appelé parce que ils me connaissent pas mal dans la région maintenant, on s'occupe pas mal de choses. Et donc là-dessus, il y avait un pont sur Saint-Joseph-de-Rivière, fond de rivière de Saint-Joseph-de-Rivière, qui a été cassé, quoi, disons.
Donc c'est ce qu'on appelle le pont du maire d'Arrée, Jean.
Le pont du maire d'Arrée, c'est ça.
D'accord.
Donc là, pour l'instant, il est en réfection. Donc on a fait une pêche électrique dessus, avant travaux. Donc les travaux, ils sont bien avancés pour l'instant. Là, ils sont en train de détourner par des tuyaux la rivière pour pouvoir travailler, pour remettre tout en fondation le pont. Le pont arrive le 7 octobre, par trois semis. Donc c'est un pont encore assez conséquent, quoi, disons, c'est des préfabriqués qui viennent, je ne me souviens plus d'où, mais ça vient tout par semis. Il y a trois semis qui arrivent là-dessus.
Alors donc, d'un joli pont en pierre d'époque, on va passer à quelque chose de beaucoup plus moderne, visiblement
Oui, mais autrement dit, ça sera un peu mieux pour laisser passer tous les sédiments qui doivent descendre, tout ça, quoi.
Ah d'accord, il y a du mieux, c'est plus adapté pour la rivière.
C'est plus adapté.
C'est moins joli à l'œil, mais c'est plus adapté pour la rivière.
Voilà, ouais.
Fabien, c'est un scoop pour Fabien. Je traduis les œillades que Fabien balance à Jean.
Je ne connais pas le dossier.
Ouais, donc disons, c'est des préfabriqués en U. Donc il y en a six, il y en a trois qui vont être posés au fond de la rivière et trois qui vont se refixer par-dessus pour pouvoir faire la route. Donc le pont il sera plus large et il sera plus résistant pour pouvoir passer dessus.
On est sur un secteur où sur le maire d'Arrée, en fait, on a un substrat assez monotone, c'est quand même assez... ça a été rectifié.
Voilà, ouais.
Par l'agriculture, c'est un cours d'eau qui a été aménagé quand même, hein, donc c'est pas la lame d'eau est assez régulière, hein, le substrat aussi, donc les caches potentielles, sont pas très sont pas très intéressantes, et donc on a sur les pêches électriques, ça se retrouve assez bien. On n'a pas une pêche exceptionnelle. On trouve essentiellement des petites truites puisque c'est plus des zones de frayère sur du substrat plus fin dont elles ont besoin pour accueillir des plus gros poissons maillés. Là, on n'a pas le milieu qui permet d'accueillir. Donc, et puis même, si on élargit un petit peu, on est quand même proche de la station de pompage du Pays Waronnais. On a la plupart des sous-affluents qui sont à sec. Le maire d'Arrée lui-même, une bonne partie de l'année, est à sec. Hein. Depuis je ne sais pas combien de temps, maintenant.
Oui, là, tout de la route à partir du pont de mai, disons autrement dit, c'est souvent à sec l'été, quoi. Maintenant, c'est de plus en plus, c'est...
Alors, on pêche où à Saint-Jean ?
Et là, on est sous les nappes de Saint-Joseph. Hein.
Ouais.
Alors, on pêche où à Saint-Jean ? À part les étangs ?
Eh bien, à Saint-Jean, on pêche...
Dans les rétangs ?
Non, alors en fait, cet ASEC-là intervient surtout sur le mer d'arrêt. Les rétents est en fait la réunion du mer d'arrêt avec le chaud roulant. Okay. Donc à partir de la confluence de ces deux-là, voilà. On retrouve... En fait, c'est finalement le chaud roulant qui amène le plus gros apport pour former les rétents, puisque le mer d'arrêt est pratiquement à sec une bonne partie de l'été. Enfin, une bonne partie de l'été. Donc cet ASEC, en fait, correspond à un linéaire, je ne sais pas de combien de centaines de mètres, mais en gros, de la route du col de la Placette jusqu'à sa jonction avec le chaud roulant. Donc effectivement, celui-là, on ne pêche pas dedans à la période estivale, bien qu'on retrouve encore du poisson là, sur les pêches. Donc c'est bien que le poisson revient malgré les ASEC. Mais voilà, on pêche donc le chaud roulant, on pêche l'aval de la confluence et jusque la jonction avec le guémor sur les rétents. Voilà.
Bien, monsieur. Donc, pour information, pour les pêcheurs locaux, effectivement, ceux de Saint-Jean, pour la partie cours d'eau, en tout cas, vont rejoindre la PPMA des pêcheurs du Haut-Biet.
En 2020, je ne sais pas, mais...
Je ne sais pas si j'aurai des bouts de pêche d'ici là, quoi, mais bon, normalement, ça doit être ça, oui.
Oui, ça doit arriver assez rapidement, logiquement. Voilà. On passe maintenant à un autre point d'actualité important, en tout cas un petit point d'étape sur tout ce qui est suivi participatif, les analyses qui ont été faites en collaboration avec les habitants. Alors, c'était un petit peu dans le cadre du label Rivière Sauvage, ça, oui. Que ça a été initié. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, Fabien, en quoi ça consiste et comment ça s'est un petit peu matérialisé tout au long de l'été, avec une prochaine date qui va revenir?
Le suivi participatif, l'idée, c'était de faire participer les citoyens, de les emmener au bord de l'eau, à venir avec nous. Faire des études physico-chimiques, donc des analyses d'eau, pour connaître un petit peu la qualité de l'eau sur le guémor, comment elle évolue au fil des saisons, en été, quand il y a moins d'eau, quand il fait plus chaud, en hiver, pour avoir un suivi régulier sur une station qui est la station du pont de l'Orcière, dans les gorges au niveau de Vica. Et puis en même temps, une analyse aussi du milieu, donc avec une petite pêche des invertébrés aquatiques, des petites bêtes. Ça permet donc en faisant ce rendez-vous tous les mois mensuels qui est organisé avec les amis du parc et les pêcheurs du Haut-Biet, ça permet de se rapprocher un petit peu de la rivière,
de sensibiliser aussi,
de sensibiliser, de découvrir ce qu'on a à côté de chez soi. On apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette rivière, sur les espèces qu'on peut y trouver. C'est pas que des poissons, on va voir passer probablement des cincles, peut-être des martins pêcheurs. On va connaître ce qu'est la faune benthique, la faune aquatique, les invertébrés. Peut-être qu'on pourra parler des truites avec les pêcheurs qui seront présents. Peut-être que parmi les amis du parc, on va nous parler de la qualité des mollusques aussi, de la particularité un petit peu du guémor sur sa population de mollusques, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, et puis ça permet de rencontrer des gens qui sont là pour vous expliquer ce qu'est une rivière sauvage, d'ailleurs, pour parler du label, si c'est bien, si c'est pas bien, comment c'est perçu par les habitants, puisqu'il y a tout un tas de réunions qui ont été faites autour, donc c'est une super initiative, ce serait bien que ça ait encore un petit peu mieux de succès, mais c'est déjà assez satisfaisant.
Les habitants se sont mobilisés, en clair.
Oui, il y avait même des personnes qui étaient contre ou qui se levaient contre le projet de labellisation, qui ont rejoint le suivi. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont en service civique, il y en a d'autres qui viennent, ont entendu parler de ça, qui ont vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un certain succès. Et puis il y a surtout une bonne ambiance, je crois. On vous invite à prendre vos bottes, bien sûr, mais un petit goûter, un petit casse-croûte,
à partager au bord de l'eau. Il y a une prochaine date qui va avoir lieu, donc samedi prochain. On peut rappeler la date?
Oui, je vais même vous rappeler les 4 prochaines, puisque le suivi ne s'arrête pas l'hiver. La prochaine, c'est le 28 septembre, donc samedi, avec rendez-vous à 8h30 au centre social pour rejoindre l'équipe et partir ensemble. Pour ceux qui viendraient d'au-dessus ou qui voudraient se rendre directement sur place, on donne rendez-vous à 8h45 au pont de l'Orcière. Le pont de l'Orcière, c'est bien le pont qu'on trouve à côté de l'usine Vica, mais de l'extraction des mines. Voilà, on se donne rendez-vous ici, puis on démarre le suivi participatif ensemble. La prochaine, ce sera donc, alors on a dit le 28 septembre, la prochaine, le mois suivant, le 19 octobre, puis le 9 novembre, puis le 7 décembre. Voilà.
D'accord. Et les lieux et heures de retrouvailles sont les mêmes, pour chaque date.
Oui.
D'accord.
On ne change rien.
Donc, centre social à 8h30, pont de l'Orcière à 8h45.
C'est ça. Bon, s'il y a des changements ou si on souhaite vraiment, on est intéressé par ces invitations, on se tient informé soit près des amis du parc, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, voilà.
Amis du parc essentiellement. Et la PPMA relaie l'information.
Voilà, oui.
Ah, ouais. Ou à moins qu'au mois de décembre, il tombe 3 mètres de neige, alors là, à ce moment-là,
c'est le rêve. Je vote pour, moi.
Oui.
Très bien, on se fait à nouveau une petite pause musicale avant d'enchaîner sur la dernière partie de cette émission riche en informations.
Southern man, you better keep your head. Don't forget what your good book said. Southern change is gonna come at last. Now your crosses are burning fast. Southern man, yeah.
Reprenons avec l'invitation AAC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'invitation AAC, Fabien ?
On a reçu dernièrement, la PPMA a reçu une invitation de l'AAC. AAC, c'est l'Association des agriculteurs de Chartreuse, qui engage une nouvelle dynamique, en fait, et qui mobilise à la fois les agriculteurs du territoire et les partenaires qui sont concernés par... les effets du réchauffement climatique et notamment sur les questions de ressources en eau. Donc les pêcheurs ont été invités, donc l'association de pêche de Saint-Laurent-du-Pont, la réciprocité gay, les fédérations aussi. L'idée, c'est une réflexion sur 4 réunions cet hiver, du mois d'octobre au mois de janvier. Ensemble, réfléchir, sensibiliser et voir comment on peut s'adapter aux effets du réchauffement climatique sur la ressource en eau et donc sur l'agriculture. On peut que féliciter une prise de décision et une invitation de la part des agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a déjà une prise de conscience, c'est super. Il y a des aspects de cette réflexion qui peuvent nous apporter des inquiétudes aussi, hein, puisque on réfléchit ressources en eau, milieu aquatique, biodiversité. Là, on est sur d'autres réflexions en termes d'agriculture, puisque là, on est vraiment usagé. Qu'est-ce que peuvent être les adaptations, les stratégies d'adaptation, quelles peuvent être les actions. Je pense qu'on va se tourner vers les territoires voisins, voir ce qu'ils font. Ils font pas toujours tout bien, je pense.
Donc, peut-être.
Et des fois, oui, certainement. Ouais. Non, mais certainement. Mais de toute façon, la réflexion en elle-même, on peut que la féliciter, quoi. Ça, c'est certain. Après, on verra, on participera, on verra ce qui se...
Ça permettra de croiser plusieurs regards, puisqu'effectivement, les associations liées à la nature, il y en a pas mal.
Oui, d'ailleurs,
il y a la pêche, il y a la chasse, il y a la FRAPNA, il y a la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Oui, tout à fait.
Et encore bien d'autres qu'on ne connaît pas forcément.
Oui, d'ailleurs, ils sont pour la plupart tous invités à venir participer à ce qu'ils ont appelé un Living Lab. Voilà, je ne peux pas... Je peux pas vous présenter les 4 dates, les 4 réunions, mais la première aura lieu le 14 octobre. Okay. Il me semble à la salle des associations de Saint-Laurent-du-Pont.
Mais ce serait ouvert aux citoyens ou...
Alors non, mais bon.
En tout cas, vous nous ferez un retour sur. Sur la prochaine émission mois d'octobre, au mois de novembre.
Les pêcheurs du Guiers sont représentés par les membres bénévoles bénévole de la PPMA de Saint-Laurent-du-Pont ou de la Réciprocité Guiers. On va répondre favorablement à cette invitation, ça c'est sûr, puisque c'est un enjeu qui est important là. On parle des usagers, on parle de l'usage de l'eau qui est déjà en situation de crise, hein, sinon on ne ferait pas ce type de réunion. Donc j'espère qu'on s'entendra sur des...
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison. Si les gens viennent, c'est qu'ils sont prêts à discuter et à croiser des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes.
On vous dira ça. Ça fera le sujet d'une prochaine émission.
Un consensus, j'espère en tout cas. Alors Jean, dans les nouvelles aussi, qui sont nombreuses en cette rentrée, la Fédération propose une nouvelle carte d'automne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Alors c'est la Fédération nationale de pêche qui propose une nouvelle carte de pêche. Ça s'appelle carte personne majeure offre d'automne. Donc c'est une carte de pêche qui part du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. Voilà, c'est tout nouveau, c'est pour les pêcheurs qui veulent voir en fin d'année, la fin de saison, la pêche, comment elle est, aussi bien en première catégorie. Bon, ça leur reste qu'une semaine de pêche, mais bon, après ils ont la deuxième catégorie pour voir ce que c'est la pêche du brochet ou d'autres, ou même du silure, tout ça quoi.
Alors, on rappelle que la première catégorie ferme effectivement le 6 octobre prochain, la pêche en première catégorie.
Ouais.
La deuxième catégorie, c'est plutôt les carnassiers cyprinidés, hein, je crois.
Voilà, c'est ça, oui, voilà. Oui. Donc là, la fermeture, c'est le 6 octobre. Donc, inclus, hein, jusque... Vous connaissez la limite de pêche, hein, donc c'est une demi-heure après le coucher du soleil. Vous avez le droit de pêcher encore, mais après c'est tout. C'est interdit jusqu'à l'année prochaine. Donc justement, voilà, et après, bon, vous avez pour la deuxième catégorie, bon, ben, c'est ouvert jusqu'à la fin de l'année, comme d'habitude, quoi.
Alors l'intérêt de cette carte d'automne, Jean, c'est peut-être surtout le prix. Puisque une carte annuelle, je ne sais plus à combien elle est, mais celle-ci, en tout cas, doit être à 50% de moins, non ?
Alors, tout à fait, oui, celle-là, elle est à 50%. Alors, donc, la carte offre d'automne, elle est à 37 euros.
Ah, au lieu du double en temps
normal. Au lieu d'une personne majeure à 75 euros, quoi, disons. Voilà.
OK.
Voilà, c'est bon, c'est nouveau. Bon, ça, c'est établi pour 2 ans, hein, c'est tout. Hein, c'est une expérience qui tente, hein, pour voir, parce que bon, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de gens qui pêchaient un peu en fin de saison comme ça que de pêcher pendant toute l'année, ou il y en a qui sont moins intéressés, donc ils essayent.
Comme toute carte promotionnelle, c'est pour emmener des pêcheurs à prendre leur première carte de pêche et espérer qu'ils prendront la suivante, je pense. Voilà, c'est une carte à 50% pour 3 mois de l'année, à la fin de l'année. Je pense qu'ils ont fait des études là, pour s'apercevoir que la plupart des cartes avaient été prises à l'automne. Et voilà, bon, c'est une tentative. Ils savent ce qu'ils font.
D'accord, il y a des chances, effectivement.
Voilà ce qu'ils disent, hein, normalement, l'offre d'automne ont été achetées pour une carte annuelle en 2019. L'année dernière, ce qui s'était passé, disons autrement dit, il y a des gens, bon, ben, ils ont acheté une carte annuelle en 2019 au lieu de prendre juste une carte comme ça en fin d'année, quoi. Voilà.
D'accord. Bon, ben, on verra d'ici quelques mois ou années ce que ça peut donner. Peut-être déjà d'ici fin 2020, si ça a pu avoir un impact. Avis aux amateurs, en tout cas.
Nous, on est là pour relayer l'information. Après,
voilà,
on va pas regarder les chiffres. Mais...
Non, mais vous parviendront par la fédération, certainement, les chiffres. Vous aurez peut-être des retours, d'ailleurs.
Je pense que ça s'adresse essentiellement aux pêcheurs... je ne vais pas l'appeler les pêcheurs du dimanche, quoi, mais des pêcheurs qui n'ont jamais pris de carte de pêche et qui... c'est une rampe de lancement. Voilà. Mais nous, bon, on n'a pas sur notre domaine, on ne gère pas de secteur en deuxième catégorie. Donc,
oui, donc la question ne se pose pas sur le guide.
Si, puisqu'ils peuvent toujours acheter leur carte chez nous pour aller pêcher ailleurs, mais
oui.
Voilà,
c'est mais pas, ce sera pas
dans
chez
la
nous.
Logique, c'est pas chez nous.
Voilà. Qui vient, donc. Eh bien, tout ça nous amène très naturellement vers la fermeture qui est donc prévue pour le 6 octobre, Fabien. Alors, comme le disait tout à l'heure Jean, la pêche est autorisée le 6 octobre jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
Je vais ajouter une petite précision que j'avais déjà fait dans les émissions précédentes, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. En France, dans la grande majorité des départements, sauf les Alpes, la pêche a déjà fermé en première catégorie, donc oui. Dans toutes les rivières qui connaissent une majorité de truites. Elle a déjà fermé au 3e dimanche de septembre.
Alors,
c'était le week-end du 15, je crois.
Pourquoi nous, on prolonge
Pourquoi
c'est prolongé
nous, on prolonge Parce que ça concerne la prolongation de 3 semaines, donc 3 semaines à compter du 3e dimanche de septembre. Ça concerne les départements des Alpes, à savoir les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie et l'Isère. Je pense qu'initialement, c'était plutôt au niveau du cycle de reproduction de la truite, qui dans les Alpes et dans les eaux un petit peu plus froides s'établit un peu plus tardivement. C'est vrai qu'on est plus sur des reproductions qui commencent en décembre, voire même janvier, alors qu'ailleurs, ça commence déjà en novembre.
Okay.
Donc je ne sais pas par quel jeu politique on a réussi à avoir cette prolongation, mais on en bénéficie, et donc on ferme le 6 octobre quand les autres départements ferment 3 semaines plus tôt. Voilà, donc la fermeture, ce sera le 6 octobre, une demi-heure après le coucher de soleil, Jean sera là pour vérifier qu'il n'y a personne au bord de l'eau.
Et les gardes-pêche aussi.
Peut-être.
Mais dans l'intervalle, il y a un petit moment festif, comme celui qu'on retrouve à l'ouverture, au pont du Quéré.
Oui, ouais. Alors on propose chaque année à nos adhérents et puis à tous les autres pêcheurs qui aiment pêcher le gué à l'ouverture ou à la fermeture, un petit rendez-vous, casse-croûte. On emmène chacun des spécialités locales qu'on vienne d'ici, de Haute-Loire d'ailleurs, pour échanger sur un moment sympa, se raconter la saison. Non, c'est des bons moments. On avait 30 personnes, je crois, à l'ouverture cette année. 30 pêcheurs, et pas que, d'ailleurs. Cette année, on remet ça comme d'habitude. On va communiquer via nos réseaux, sur notre site internet, peut-être même une newsletter à nos adhérents. Sûrement même. Voilà, donc on se donne rendez-vous au pont du Curé, un petit peu avant l'heure de manger.
Donc vers 11h30.
Voilà.
Avec du liquide et du solide.
Voilà. De bonne qualité au possible.
Ah oui, acheté chez les charcutiers bouchers.
Avec plus de nourriture que de plastique au possible.
On aura compris.
Voilà. Et non, c'est donc le pont du Curé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pont qui va relier Miribel des Échelles et qui se trouve au bout du chemin de la Malposte. Quand on est sorti des Échelles et qu'on se dirige en direction de Chaille, dans la grande ligne droite, on bifurque à gauche la Malposte. Et puis on arrive sur le pont du Curé, on va voir plein de pêcheurs.
Regrouper.
Des tables, peut-être un barnum, tout ça, voilà, donc on vous invite, vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit la technique, les horizons, voilà, c'est le bon moment d'échanger, de nous rencontrer aussi. Et puis si on peut vous agripper en tant que bénévole, on n'hésitera pas aussi.
Moi, je dirais vous harponner.
On harponnera. On se permettra ce qu'on ne peut pas dans l'eau.
Et alors, ce même week-end, il va se passer les rencontres Sampé. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est Sampé et où est-ce que ça va se passer et comment?
Sampé, moi, à titre professionnel, c'est un partenaire, puisque c'est un guide de pêche, un des plus vieux guides de pêche, en tout cas, des premiers, de grande renommée, qui a développé une technique de pêche particulière au TOC, un petit peu plus élaborée, et qui, avec la formation d'une association Sampé, tout ça, ils ont pensé à faire des rencontres dans l'année, plusieurs, qu'elles soient dans les Pyrénées, dans le Massif Central ou dans les Alpes. Propose un rendez-vous annuel, donc une fermeture dans Rencontre des Alpes qui se passera, tout le monde logera aux abrés, au camping du coin tranquille. Les inscriptions se feront auprès de Patrick Quesada. Je vais même donner le numéro de téléphone au 06 18 13 64 18 pour participer ou non la journée aux sorties de pêche qui se font dans les alentours. Ça peut être sur l'Isère, le Rhône, le Drac, le Guiers, les alentours. C'est 70€ environ, plus ou moins, par jour pour la pension complète, le logement. Et donc, ça se déroulera du 4, 5, 6 octobre. Voilà, 4, 5, 6 octobre, toute l'association Sampé, son fils, qui vend aussi un petit peu de matériel, seront présents, les pêcheurs seront présents, ils se connaissent bien, certains ne sont pas... sont tout nouveaux et l'ambiance est quand même assez bonne. Venez avec un bon esprit et ça se passera très très bien.
Donc vous pouvez même tester les deux, d'un côté le week-end sans paix entre le 4 et le 5 et finir en beauté le 6 pour venir partager avec la PPMA des pêcheurs du Haut-Guiers.
Mais il y en aura même probablement qui viendront à notre rendez-vous de fermeture.
Ah ben voilà. Avec plaisir. En tout cas, merci messieurs pour le temps passé, la disponibilité sur cette nouvelle émission. On se retrouve la prochaine fois. Merci Jean, à bientôt.
À bientôt à tous.
Merci Fabien,
merci
à bientôt
Sophie,
aussi.
Merci à tous.
Et bonnes vacances dans l'intervalle.
Et bonnes vacances, oui.
Et merci à Fabien, à la technique. À très bientôt.
I got them deep river blues. Let the rain drive right on. Let the waves sweep along. 'Cause I got them deep river blues.
My old gal's a good old pal. She looks like a waterfowl. When I get them deep river blues.
I'll go out on a spree when I get them deep river blues.
Yeah.